Alors, je suis content de revoir mon Christian, parce que dans les histoires, le mythe et complot, tout ça, t'as pas plus cartésien et plate que moi. Les méchants veulent me raconter des histoires comme ça. Je suis tout le temps en train de m'endormir. Il y a juste toi.
Oui.
Christian, tu me fascines. À chaque fois, j'embarque dans tes affaires comme un enfant. J'adore ça.
Ben, c'est parfait. Écoute,
je vais commencer avec... Parle-moi de la science et du monde du
paranormal. Écoute, je vais commencer avec une petite entrée, disons, éditoriale.
Oui.
Tu sais, dans mon univers du paranormal, du mystérieux et de l'étrange, 100% des artisans disent « nous voulons démystifier ces phénomènes ». Hein, démystifier, c'est enlever le mystère de. Dans les faits, 95% d'entre eux souhaitent maintenir le mystère.
Ah oui, ils peuvent payer le mystère, voilà. S'il n'y a plus de mystère.
Et parce qu'ils veulent... Donc, ces gens-là, évidemment, s'éloignent de tout ce qui pourrait, entre guillemets, péter leur ballon. Ils ne lisent pas mes livres, n'écoutent pas cette chronique au 98.5 et surtout ne lisent pas les périodiques scientifiques. En fait, ils vont jusqu'à diaboliser le milieu de la science. Hein. N'écoutez pas ce que les scientifiques disent, ce sont tous des imbéciles. Moi, le chasseur de fantômes qui n'a pas un secondaire 5, quand vient le moment de parler de neurosciences et de physique quantique, je suis un expert. Donc, tu vois un peu, c'est comme ça. Et on se tient comme ça, loin de cet univers qui pourrait péter notre ballon. Dans les faits, Dan, chaque année, il y a des études qui sont menées dans les milieux scientifiques qui jettent un éclairage nouveau sur les phénomènes paranormaux. Le sujet n'est pas forcément le paranormal, mais les découvertes jettent un éclairage nouveau sur ces phénomènes et nous permettent de reculer les frontières de l'inexplicable. Et c'est justement avant de tourner la page sur 2019, pardon, il y a trois études qui ont été menées au cours de l'an dernier, qui ont été publiées l'an dernier, et qui jettent un éclairage très important sur certains phénomènes paranormaux. Et avant de tourner la page sur l'année, je voulais absolument qu'on en parle. Donc, la première nouvelle, je t'amène à l'été 2019, à la fin de l'été 2019. On est à Drumnadrochit, on est sur les bords du Loch Ness en Écosse. Et voilà qu'il y a un scientifique, un spécialiste de l'ADN, le docteur Neil Gamet.
Renomme-moi la ville.
Drumnadrochit, hein, ça se trouve sur l'une des rives du Loch Ness.
Je vais enregistrer ça va être ma sonnerie de téléphone.
Loch Ness, qui est célèbre pour ses histoires de monstres lacustres. Hein. Oui. Il y aurait une créature mystérieuse.
Il y a un monstre du Loch Ness.
Qui vivrait dans les eaux du Loch Ness et dont les témoignages remontent au 6e siècle. Hein, et donc, depuis... 1400 ans,
on parle... C'était normal qu'on croie ça. Il n'y avait pas de science. Ouais,
absolument.
Alors, elle n'était pas très avancée.
Et jusqu'à maintenant, donc, il faut que je te... Bon, on a cet été tenu d'une conférence de presse tenue par le docteur Neil Gamel, qui est professeur de génétique, une des sommités mondiales à l'Université d'Otago. Ça se trouve en Nouvelle-Zélande.
Et là, ce qu'il t'interromps un peu, juste dire à tout le monde que Christian, depuis tantôt, là, il y a à peu près 30 pages de notes, il ne regarde même pas. Il n'a pas jeté un œil sur ses maudites notes. Il me parle en me regardant dans les yeux. C'est fascinant.
Et dans cette, donc, durant cette conférence de presse, Neil Gamel rend public ses résultats d'une analyse de l'ADN environnemental. Donc, il faut faire un petit bond encore dans le passé. Été 2018, le docteur Gamel et son équipe se sont rendus au Loch Ness où ils ont pris 250 échantillons d'eau à différentes profondeurs dans le Loch Ness. L'idée était d'établir une carte de tous les animaux vivant dans le Loch Ness. Il faut savoir que tous les êtres vivants contaminent leur environnement. Hein? Et donc, dans la nature, les animaux font
Trump
des excréments,
aussi.
De l'urine.
Trump aussi, il contamine un peu.
Absolument. Et dans l'eau, c'est encore plus facile hein, parce que l'eau est un bon vecteur pour transporter ces signatures ADN. Ouais. C'est ce qu'on appelle maintenant l'ADN environnemental. On peut analyser les résidus, les contaminants qu'il y a dans un environnement.
Donc, savoir quels animaux il y a dans tel endroit.
De tout compris. Donc, été 2019, le professeur Gamel tient sa conférence de presse. Et ce qu'il raconte, c'est qu'il a analysé toutes les analyses, il a tiré des séquences ADN de tous les animaux vivant dans le Loch Ness. Et il n'y a pas de monstres ou d'animaux inconnus qui vivent dans le Loch Ness. Cette fois, la messe est dite. Il n'y a pas à revenir en arrière. On n'est pas ici à 98 ou 97 %. On est à 100 % de certitude. Autrefois, dans le passé, à toutes les fois, on avait essayé de traquer le monstre du Loch Ness. On avait utilisé des moyens mécaniques, des caméras, des cages, des prises. Et on a toujours raté notre coup. Alors, on pouvait toujours se dire, le monstre est un petit futé. Il nous a échappé. Pas ici.
Oui, mais quand comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas dans le lac alors qu'on ne connaît pas sa signature d'ADN?
Mais là, on a tous les ADN. On n'a pas trouvé un ADN non identifié.
Il n'y en a pas un qui n'est pas identifié.
Il n'y a pas un ADN non identifié. Tous les ADN, toutes les signatures ADN qu'on a trouvées. Écoute, c'est tellement précis que le docteur Gamel a trouvé dans ses signatures ADN de l'ADN de chien, de l'ADN de mouton, de l'ADN d'animaux, des cerfs, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il suffit que des riverains aient envoyé leur chien courir après un bâton dans le Loch Ness. Il a laissé de l'ADN et éventuellement, le docteur Gamel a vu apparaître ça dans ses analyses.
Mais j'ai lu le docteur Gamel. Il a dit qu'il n'était pas dans le Loch Ness, le monstre, mais il est rendu dans le même frémagone. ça va être notre tour.
Alors, est-ce qu'on doit dire que tous les gens qui ont rapporté avoir vu le monstre du Loch Ness ont tort? Absolument pas. Le docteur Gamel dit peut-être ce qu'il a noté, par exemple, c'est qu'il y a énormément d'ADN d'anguilles dans le Loch Ness. Peut-être que certaines d'entre elles atteignent des tailles énormes et peut-être 4 ou 5 mètres de long et peut-être l'apparition de ces anguilles à la surface ont-elles généré des légendes ou des apparitions de monstres. Mais la messe est dite. Maintenant, il n'y a pas de monstres dans le Loch Ness. Pour continuer de croire à ça...
Non, mais s'il y a des anguilles, je n'irai pas me baigner non plus.
Il faut croire donc à imaginer une espèce animale qui vivrait ou un animal ou des animaux parce que comme tu l'as mentionné, difficile de croire qu'un seul animal pourrait perdurer pendant des siècles. Donc, imaginez une communauté d'animaux qui ne fait jamais pipi, qui ne fait jamais caca, qui ne laisse jamais de signature ADN derrière elle. C'est un mythe. C'est croire aux licornes puis à n'importe quoi. Donc, maintenant, la messe est dite. Il faut fermer le livre. Il n'y a pas d'animaux inconnus qui vivent dans le Loch Ness. Point final.
Grosse désillusion
c'est
pour
plat,
moi.
C'est plat.
T'as-tu d'autres affaires ou est-ce qu'il y a du mystère payant, là?
Ben, écoute, voici une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Bar-Ilan. Ça se trouve en banlieue de Tel Aviv.
Ils prononcent sans regarder ces notes. Et répète-moi, Bar quoi?
Bar-Ilan.
Merci.
Ça se trouve en banlieue de Tel Aviv. Et les scientifiques ont mené une recherche. Tu vas comprendre que ça ne touche pas le paranormal, mais l'influence est importante. Ils ont mené une recherche sur la façon dont notre cerveau, de manière cognitive, perçoit la mort. Et là, bon... C'est assez compliqué la façon qu'ils ont utilisé ça. Je t'ai même amené l'étude ici si tu as envie d'une petite lecture de week-end.
Ah, écoute, c'est le fun, il y a juste 60 pages, je suis très petit puis j'ai perdu mes lunettes. Ça va être fantastique.
Donc, ce qu'ils ont fait, là, grosso modo, écoute, je te résume très simplement, ils ont pris des sujets, ils ont montré à ces gens-là des images liées à la mort. Ça peut être un cercueil, ça peut être un cimetière, ça peut être un corbillard. Et donc là, le cerveau... évidemment, faisait cette association avec la mort. Et là, on présentait...
Oui, mais
de
avec
temps
des
autre,
choses qu'il a déjà vues.
Ouais. Et là, on présentait à ces gens-là, dans cette séquence photographique, on présentait des photographies de gens. Et là, immédiatement, le cerveau faisait comme une association de surprise. Appelons ça comme ça pour le besoin de notre conversation, une association de surprise. Oups, je vois le visage d'un homme apparaître, le visage d'une femme, qui n'était pas le sujet lui-même, hein, donc il voyait ça. Et le cerveau faisait comme cette hésitation pour pouvoir associer le visage à des photographies présentant des éléments liés à la mort. Il faisait ça toujours, sauf quand c'était une image du sujet. Le cerveau ne marquait aucun temps d'attente, aucune surprise, rien. En fait,
on censure la mort, c'est ça que tu dis?
Voilà, notre cerveau censure notre propre mort. Et là, pourquoi il le fait? Parce que, bon, évidemment, c'est quelque chose d'obsédant, la mort. On comprend que plus on avance en âge, plus la mort devient préoccupante.
Hein? Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus terrorisant parce que c'est inévitable.
Inévitable.
Et c'est l'inconnu.
Absolument, total. Absolument. Et c'est
de
sûr
là,
qu'on pense moins à la mort.
De répondre à ces interrogations-là par des religions multiples.
Oh,
mais toutes les religions ont ça en commun qu'ils promettent un paradis après la mort.
Dan, tu m'amènes sur la voie que je voulais t'amener.
Oh,
parce que
ça,
j'allais te
doué.
Poser la question. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi le lien avec le paranormal? Il est là. Les scientifiques posent plusieurs avenues. Ils se disent, bon... Pourquoi notre cerveau fait ça? Ça peut aller jusqu'à la protection de notre espèce. La mort pourrait devenir tellement obsédante que l'espèce humaine ne penserait plus à se reproduire, tellement on serait obsédé par l'idée de la mort. Et on le sait, la mort a toujours fait partie de l'humanité. Même au néolithique, par exemple, au moment où les gens mouraient, on les enterrait dans des rituels funéraires. Et les scientifiques posent une deuxième question. Est-ce que finalement, notre cerveau ne serait pas perméable plus facilement à des croyances spirituelles et religieuses qui nous permet ou qui nous amène à croire à un au-delà, à une
tolérable.
Ouais. Alors à ce moment-là, quand quelqu'un te dira, Dan, je crois à la réincarnation, au lieu de t'étonner en disant ah tu crois à la réincarnation, tu pourras répondre c'est naturel d'y croire. Parce que notre cerveau devient plus facilement perméable à toutes sortes de croyances spirituelles, religieuses, ésotériques qui laissent présager une survie, une croyance dans un au-delà. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi, dès la préhistoire, on avait déjà des rituels funéraires qui amenaient les gens à croire à cet au-delà. Notre cerveau...
C'est une espèce d'antidépresseur, si je comprends bien.
C'est extraordinaire, cette recherche-là. Elle nous montre bien que notre cerveau est conditionné. Il est naturel de croire à la survie, parce que la mort est intolérable. Elle est envisageable pour les autres, mais pas pour nous. Donc, notre cerveau est un cerveau croyant dès le départ. Donc, que ce soit à travers des concepts religieux, des concepts spirituels, des concepts ésotériques...
Les concepts religieux, combien de temps on a cru qu'il n'y avait pas de sexe avant le mariage, alors que la vérité, c'est qu'il n'y en a pas après? Excuse-moi, ça m'a échappé. Hey, je m'en donc. Excuse, je demande
mais
pardon.
Tu vois, cette recherche scientifique qui va complètement dans, qui n'était pas axée vers le surnaturel ou la croyance, c'était simplement de voir comment notre cerveau, sur la cognition, arrivait à envisager sa propre mort. Et ça nous amène soudainement à jeter un autre regard sur toutes sortes de croyances ésotériques ou mystiques par rapport à la mort.
Mais qui était une espèce de regard artistique, je te dirais.
Absolument, absolument. Et ça, c'est fascinant.
C'est absolument fascinant. On va prendre une petite pause. Vous revient tout de suite avec Christian Page. Puis là, j'espère que tu vas pas me péter une ballonne encore puis tu vas me revenir avec du mystérieux.
Je t'arrive avec le prix Nobel de l'année dans le domaine du paranormal. L'étude prix Nobel.
Étude prix Nobel dans le paranormal après la pause avec Christian Page. Alors, on est de retour avec notre cher Christian Page qui va encore nous passionner pour quelque chose. Là, je vous avertis, il fait pas circulation. Il va nous parler d'embouteillage visuel.
Voilà. Écoute, ça, à mon avis, c'est la recherche la plus déterminante de l'année 2019 par rapport aux croyances dans le domaine du paranormal. Des scientifiques de l'Université de Georgetown, qui se trouve à Washington, D.C., se sont penchés sur la façon, quelle était la mécanique de notre cognition visuelle. Donc, je fais un petit aparté ici pour expliquer généralement comment fonctionne notre identification visuelle. Donc, supposons, par exemple, dans ton petit coin de pays, tu sors de chez toi, tu t'en vas en forêt. Je sais que tu habites dans une région plutôt bucolique.
Ouais. Là, je tombe sur toi.
Et là, tu te promènes entre les arbres et soudainement, tu vois un animal, quatre pattes, le museau noir, fourrure rousse. Okay. Et là, tu te dis, tiens, cette image-là, qu'est-ce que c'est? Donc, ton cerveau, ce qu'il va faire à ce moment-là, au moment où tu vois l'animal, l'image va, entre guillemets, s'enregistrer dans ton cortex visuel et ton cerveau va faire des allers-retours à la fois dans ta banque de connaissances, tes expériences personnelles, pour essayer d'identifier cet animal. Et là, il dit, ben voilà, c'est un renard.
Donc,
là,
un peu comme les banques du FBI qui trouvent
voilà.
Via visage.
Cette action de ton cerveau qui fait des allers-retours pour identifier l'image, on l'appelle la rétroaction visuelle. Alors, une fois qu'il a identifié cette image-là, il met une étiquette sur ton image en disant, voilà, c'est un renard. Prochaine image. Il peut faire ça 70 fois à la seconde. C'est quand même très rapide. Mais ce que les chercheurs de l'Université de Georgetown ont découvert, c'est que c'est vrai, mais dans des conditions visuelles optimales. Alors, imaginons un autre scénario. Tu sors de chez toi, c'est la brunante, condition visuelle un peu moins bonne. Et là, entre les arbres, tu vois une espèce de grosse souris sautillante entre les arbres. Alors là, évidemment, l'information s'enregistre. Mais là, tu dis, une grosse souris qui saute entre les arbres. Aller-retour dans ton cerveau, on se dit, ben, une grosse souris, c'est peut-être un kangourou. Mais en même temps, il y a une opposition qui dit, oui, mais un kangourou au Québec, on n'en a pas. Donc, tu vois, là, il y a comme une espèce de contrariété qui se fait. Et dans des conditions comme celle-là, et c'est ça l'importante découverte ici qui est faite, c'est que les scientifiques ont découvert que ton cerveau, à ce moment-là, lorsqu'il prend plus de temps à identifier quelque chose, les images continuent d'entrer. Il va simplement les éliminer. Lorsque ton cerveau reprend le dessus, si on peut dire, reprend les rênes, il dit, voilà, il m'a fallu plus de temps pour identifier le kangourou.
Mais au lieu d'identifier ce que c'est, j'ai identifié ce que c'était pas.
Non. Moi. Mais là, donc, tu vois,
c'est
un kangourou.
Il élimine des possibilités. Là.
Ouais. Et là, quand il dit, voilà, c'est un kangourou, il reprend le fil de l'action, mais là, en se disant, mais là, je suis rendu à l'image 30 ou 40. Donc, qu'est-ce que je fais avec toutes les autres images qui se sont enregistrées entre temps, l'écureuil qui marchait sur une branche, le chien qui est passé près de toi, il les élimine. Non seulement il les élimine, il reconstruit la réalité, non pas en fonction des images observées, mais en fonction des images décantées. Alors, ce qui te donne une réalité relativement précaire. Alors, imagine ça. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi le lien avec le paranormal? Imagine, par exemple...
Non, mais attends, avant ça, est-ce que ça pourrait pas expliquer, par exemple, que, je sais pas, il y a un meurtre ou une horreur sur la rue, 15 personnes l'ont vu, puis il n'y a pas un maudit témoin qui raconte la même affaire à la police? Ça, c'est
compris. T'as tout compris. Alors, si on remet... Parce que les conditions d'observation non optimales peuvent être liées à beaucoup de choses. La nervosité, la surprise, le stress. Alors, imaginons dans le domaine du paranormal, des gens qui disent, ben voilà, c'était la nuit, on est allé visiter une vieille usine abandonnée, et là, soudain, dans l'obscurité, j'ai vu apparaître une ombre sur le mur. En réalité, il y avait peut-être un de tes compagnons qui se tenait devant une fenêtre, une voiture est passée dans la rue, a éclairé le personnage,
toi,
a
t'as
projeté
pensé à Dracula.
Une ombre. Mais comme ton cerveau et tes conditions d'observation n'étaient pas optimales, ton cerveau, le temps de décanter l'ombre sur le mur, il n'a pas tenu compte de la voiture qui passait dans la rue, il n'a pas tenu compte des phares de la voiture qui éclairait la fenêtre, il n'a pas tenu compte de ton ami qui se tenait devant la fenêtre, il a éliminé ces images-là, il a reconstitué la réalité en te donnant l'impression qu'il n'y avait rien et qu'une ombre est apparue sur le mur. Et là, soudainement, on se retrouve projeté dans un univers qui nous semble être bien réel, mais qui en fait n'est que des fantasmes recréés par notre cerveau parce qu'il a été incapable, dans les conditions présentes, soit par le stress, les conditions visuelles étaient moins bonnes, mais il était incapable de suivre le bon chemin. Et
c'est ce qu'on appelle croire son imagination, finalement.
Voilà.
Mais en une fraction de seconde.
Voilà. Et ce que l'étude montre de ces chercheurs de l'Université de Georgetown, c'est que, malheureusement, tu connais l'expression « je sais ce que j'ai vu ». Non. Mm-hmm. Tu sais ce que tu crois avoir vu. Et même, on pourrait dire, tu sais ce que ton cerveau a bien voulu voir et décanter comme information. Le reste, la vérité objective, tu n'y as pas accès.
Donc, ça, faut s'en servir dans un ostinage avec ta blonde.
Voilà. Donc,
tu vas gagner avec ça.
Tu as une vérité psychologique, ce qui est la tienne, et la vérité objective, qui est généralement celle des hommes.
Oui. On va se faire boycotter.
Mais donc, tu comprends. Et ça, c'est très important parce que dans l'univers du paranormal, il faut bien se l'avouer, 95% des histoires qui circulent sont basées sur des témoignages oculaires et non seulement sur des témoignages oculaires,
mais
généralement des témoignages qui proviennent d'observations faites dans des conditions non optimales. Hein, la personne qui roule de nuit, elle est fatiguée. « Oh, j'ai vu un ovni passer, j'ai vu un fantôme, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. » C'est rarement des conditions d'observation optimales.
Non, d'ailleurs, toutes les photos devenues sont pas très claires. Je pense que c'est une règle.
Tu sais
pour que ce soit un ovni, il faut pas que ça soit clair.
Tu sais que l'univers du paranormal, c'est la plus grande pépinière de photos floues au monde. Donc, ce que ça nous rappelle, c'est que sans une preuve matérielle, le témoignage, il est excessivement fragile. Et l'étude vient de le démontrer.
Est-ce que l'adrénaline pourrait pas jouer un rôle aussi là-dedans? Parce que l'adrénaline, c'est le principal outil chez tous les animaux, y compris l'humain. Admettons, t'as une menace. C'est ce qui... moi, j'ai déjà vu la vie au ralenti, un petit accident de moto, rien de grave. Mais j'ai eu le temps de penser, j'ai pas mis mon casque, je vais me faire mal. Puis là, j'ai eu le temps de faire une coquille, comme d'un combat. Oui. Puis je me suis protégé. Puis tout avait l'air à passer lentement. Mais il passait pas lentement, c'était moi qui étais rapide à cause de l'adrénaline. Et donc ça... Ça peut pas fausser ton raisonnement aussi, cette rapidité?
En fait, tous ces éléments-là faussent ton raisonnement. En fait, ils faussent la réalité que tu vas imaginer. Quand les chercheurs parlent d'une vision non optimale, ils parlent de tout. Le stress, la peur, évidemment, le contexte visuel. Donc, tous ces éléments-là, ta peur, la crainte, adrénaline, donc tous ces éléments-là vont contribuer à ce que ton cerveau va mettre plus de temps à décanter l'information qui lui arrive par ses senseurs visuels, et à ce moment-là, on a une réalité reconstituée.
Donc être prudent quand on est certain qu'on a raison.
Voilà.
Je comprends.
Bien sûr, c'est tout à fait
merci,
ça.
Mon Christian.
Ça
comme
fait
d'habitude,
plaisir,
c'est un plaisir. On se revoit, j'espère. Moi, je prends ma petite fin de semaine de break et puis on se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous autres. Bye.